France Culture.
Le journal, Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Première démission au sein de l'administration Trump pour dénoncer la guerre contre l'Iran. Joe Kent, chargé de la lutte contre le terrorisme, quitte son poste car pour lui, l'Iran ne constituait pas une menace imminente pour les États-Unis. L'Iran qui a perdu l'un de ses principaux dirigeants, Ali Larijani, tué dans une frappe israélienne, le régime des Mollahs pourrait se militariser davantage. L'analyse à suivre de Christian Chéneau. La campagne des municipales se poursuivra sans Sébastien Delogu à Marseille et sans Sarah Knafo à Paris. L'insoumis et la candidate de Reconquête se retirent, l'un pour faire échec au RN, l'autre pour battre la gauche. Avec un point commun, tous deux n'avaient plus grand-chose à attendre du scrutin. Boualem Sansal s'explique sur son départ de Gallimard. L'écrivain franco-algérien évoque une divergence avec son éditeur historique lors de son incarcération en Algérie. C'est un coup dur pour Donald Trump dans sa croisade contre l'Iran et il vient de l'intérieur de son administration. Joe Kent, le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, annonce sa démission. Un geste fort pour marquer son désaccord avec le président américain sur le conflit en cours. On retrouve à Washington Franck Madvon, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Franck, pour Joe Kent, le régime des Mollahs ne menaçait pas les États-Unis avant la guerre.
Il estime en effet que l'Iran ne présentait pas une menace imminente pour les États-Unis. Il est clair, écrit-il dans sa lettre de démission, que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Joe Kent est un vétéran, ex-membre des forces spéciales, puis de la CIA. Ce n'est pas un visage connu des Américains, mais son parcours donne évidemment du poids à sa parole. Il s'est rapproché du camp Trump dans les années 2020. Il n'est pas parvenu à se faire élire au Congrès, mais a donc obtenu le poste de directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Dans sa lettre de démission, il qualifie les guerres au Moyen-Orient de piège qui prend à l'Amérique de précieuses vies. Joe Kent a perdu sa femme militaire dans un attentat commis par le groupe État islamique en Syrie en 2019. Il affirme avoir longtemps soutenu la politique étrangère de Donald Trump, qui avait su éviter les guerres sans fin. À ses yeux, le président a été influencé par ce qu'il appelle une campagne de désinformation menée par des figures médiatiques influentes et des responsables israéliens, une campagne qui a sapé, écrit-il, le programme America First, l'Amérique d'abord. Joe Kent déclare donc ne pas pouvoir soutenir une guerre qui n'apporte aucun bénéfice au peuple américain. Donald Trump a réagi il y a une demi-heure à peine. Il voit dans sa démission une bonne chose, il était faible en matière de sécurité.
Merci Franck Madvon, correspondant de France Culture aux États-Unis. Le régime iranien qui a une nouvelle fois perdu aujourd'hui deux de ses principaux dirigeants. Israël affirme avoir éliminé Ali Larijani, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale, et Gholam Reza Soleimani, le commandant du Basij, la milice chargée de réprimer les manifestations en Iran. Téhéran n'a pas encore confirmé la mort de ces deux hommes annoncée par le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
Arrêtons-nous un instant sur Ali Larijani, une figure centrale du régime des Mollahs, qui n'était pas forcément une cible pour les Américains, mais les Israéliens en ont décidé autrement.
Oui, Ali Larijani, 68 ans, était un rouage clé de la mécanique du pouvoir iranien, mais aussi une courroie de transmission vers l'extérieur. Il était l'homme des contacts avec la Russie et la Chine. Il était reçu régulièrement au Kremlin par Vladimir Poutine, ni religieux ni militaire. Ali Larijani était un personnage politique influent dans le sérail de la République islamique. Il présida le Parlement, le Majlis, et fut plusieurs fois candidat à l'élection présidentielle. Proche des milieux d'affaires, il avait la confiance des gardiens de la révolution, mais surtout d'Ali Khamenei, le guide suprême assassiné par Israël le 28 février. Ce dernier l'avait propulsé à la tête du Conseil suprême de la sécurité nationale. Ingénieur de formation et féru de philosophie, spécialiste de Kant, Ali Larijani était un pragmatique, mais sans état d'âme pour réprimer dans le sang les manifestants, comme ce fut le cas en janvier dernier.
Christian, avec la mort d'Ali Larijani, le régime iranien pourrait accentuer sa militarisation.
Oui, c'est sans doute un pas vers un contrôle encore plus strict des gardiens de la révolution sur les institutions de la République islamique. Les assassinats ciblés de hauts dirigeants par Israël ne peuvent que conforter le régime iranien dans une posture plus radicale, refusant à ce stade toute désescalade. C'est ainsi que le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, dont on ne sait pas s'il est toujours vivant puisqu'il ne s'exprime que par communiqué, a nommé auprès de lui comme conseiller à la sécurité un vétéran de la guerre Iran-Irak en la personne de Mohsen Rezaei, qui appartient à la génération historique des gardiens de la révolution, comme si, encaissant les coups, les autorités iraniennes reprenaient la posture de la citadelle assiégée comme elles l'avaient déjà connue dans les années 80.
Décryptage signé Christian Chéneau de la rédaction internationale de Radio France. La France n'a pas choisi cette guerre, ce sont les mots d'Emmanuel Macron à l'ouverture d'un nouveau conseil de défense convoqué cet après-midi à l'Élysée pour analyser la situation au Moyen-Orient. Le chef de l'État réitère son refus d'envoyer des navires de guerre français pour sécuriser le détroit d'Ormuz au large de l'Iran, et cela malgré les demandes répétées de Donald Trump.
S'agissant du détroit d'Ormuz, nous ne sommes pas partie prenante au conflit. Et donc, jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel. Par contre, nous sommes convaincus qu'une fois la situation plus calme, et je suis à dessein, ce terme est suffisamment large, une fois la situation plus calme, c'est-à-dire une fois que le cœur des bombardements aura cessé, nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique, technique, avec évidemment l'ensemble des acteurs du transport maritime, avec les assureurs, et opérationnel que nous devons bâtir.
Emmanuel Macron tout à l'heure à l'Élysée. Ce soir, Donald Trump qualifie d'erreur vraiment stupide le refus des pays de l'OTAN, dont la France, de participer à la sécurisation du détroit d'Ormuz. Un peu plus tôt sur son réseau Truth Social, le président américain avait dit qu'il n'avait plus besoin de l'aide de ces pays pour sécuriser le passage. Il est trop tard pour déposer une liste au deuxième tour des élections municipales. Les inscriptions sont closes, ce qui signifie que l'on connaît désormais les affiches de dimanche prochain dans les grandes villes. À Marseille et à Paris, deux désistements majeurs pourraient rebattre les cartes. Dans la deuxième ville de France, l'insoumis Sébastien Delogu se retire pour faire barrage au Rassemblement National. Scénario inverse dans la capitale où la candidate reconquête Sarah Knafo annonce son retrait pour empêcher la victoire de la gauche. Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Il y a tout de même un point commun entre Sébastien Delogu et Sarah Knafo, c'est que tous les deux n'avaient pas grand-chose à gagner dimanche prochain.
Il y a même plusieurs points communs, hormis le fait bien sûr qu'ils ne sont pas du même bord politique. D'abord, aucun des deux n'avait l'ambition de devenir maire de la ville dans laquelle ils se présentaient. Ni Sébastien Delogu à Marseille, ni Sarah Knafo à Paris. Leur objectif était de dépasser le seuil de 10% des suffrages exprimés. Concernant Sébastien Delogu à Marseille, pour essayer de forcer le candidat socialiste Benoît Payan à faire alliance avec lui, et concernant Sarah Knafo à Paris pour essayer de forcer la candidate des Républicains, Rachida Dati, à faire alliance avec elle. Ils n'ont pas réussi à forcer l'alliance, ils n'ont par conséquent pas grand-chose de plus à gagner, si ce n'est quelques places au Conseil de Marseille ou au Conseil de Paris. Mais là encore, ce n'était l'ambition ni de l'un ni de l'autre. L'objectif des Insoumis, c'est la présidentielle de 2027. Dans cette perspective, Sébastien Delogu était en service commandé pour essayer de forcer les socialistes à revenir dans une union des forces de gauche dont Jean-Luc Mélenchon pourrait prendre la tête afin d'empêcher la possible élection du Rassemblement National. Or, c'est ce qui se profile déjà à Marseille pour ce scrutin. Le RN pourrait l'emporter. Sébastien Delogu ne pouvait par conséquent pas prendre le risque en se maintenant de faire perdre la gauche face au Rassemblement National. Même chose pour Sarah Knafo à Paris, elle aussi prépare la suite. Et dans cette perspective, elle prône l'union des droites contre la gauche. Elle ne pouvait pas, de la même manière, prendre le risque de faire gagner la gauche en se maintenant, sauf à décrédibiliser son message politique. Enfin, dernier élément, à Marseille comme à Paris, quelle que soit la configuration, ce sont en réalité deux duels qui se profilent au second tour. Et dans les deux cas, un vote utile va se mettre en place en faveur des candidats susceptibles de l'emporter. Dans ce contexte, Sébastien Delogu comme Sarah Knafo pouvaient tous les deux terminer piteusement à 3 ou 4% des suffrages exprimés au second tour. Ils avaient donc beaucoup plus à perdre qu'à gagner en maintenant leur candidature.
Stéphane Robert, chef du service politique de France Culture. À Lyon, l'alliance entre LFI et la majorité écologiste ne sera pas complète puisque les deux partis n'ont pas trouvé d'accord pour la métropole. En revanche, pour la ville de Lyon, le maire sortant écologiste Grégory Doucet a bien fusionné sa liste avec celle des Insoumis. Grégory Doucet, qui malgré les sondages défavorables, est parvenu à devancer son adversaire de droite Jean-Michel Aulas au soir du premier tour. Mais cette fusion avec les amis de Jean-Luc Mélenchon désarçonne une partie de ses électeurs. C'est un reportage à Lyon de Christophe Vincent.
Il y a d'abord les indécis, ceux qui ont voté Doucet au premier tour et qui hésitent à récidiver.
On n'est pas content qu'il s'allie avec LFI. On a des doutes quand même. C'est des ultra-gauchistes, mais on accepte. On lui fait confiance. Et mon mari aussi. Je l'ai convaincu.
Je retourne voter, mais je n'ai pas encore pris ma décision. Ce sera un petit peu suivant le sentiment du moment. La tendance serait plutôt de revoter pour Grégory Doucet également. Ouais. Je ne suis pas très attiré par les propositions de LFI. C'est plutôt une hésitation côté l'avenir de la ville de Lyon. Au niveau économique et social, c'est pas ultra performant.
Il y a la gauche modérée, en phase avec le maire écologiste, des électeurs pas gênés par cette alliance.
Qui est d'accord au niveau local, ça ne me dérange pas. Si leur intention, c'est de mettre le bazar dans le conseil municipal, on ne peut pas dire que ce soit une bonne chose. Il n'y a plus grand-chose qui me fait peur.
Ça change rien parce que je ne voterai pas Aulas. Ce sera Doucet et peu importe ce qui se passe, je ne tolère pas ce que fait LFI en ce moment. Mais et ça ne changera pas mon vote.
L'essentiel, c'est qu'ils passent. S'ils sont en accord là, entre les deux, ça me dérange pas. Ça va être peut-être un peu compliqué, mais on verra bien.
Enfin, il y a les électeurs, bien à gauche, qui voient d'un bon œil la fusion avec LFI.
Je trouve ça plutôt raisonnable. Il y a des gens bien partout. Voilà. Je pense que c'est mieux que la gauche reste à Lyon. Je ne suis pas gêné par les outrances. Ma foi, on n'est pas obligé d'apprécier Mélenchon, mais il y a des gens bien aussi dans les militants.
Ce n'est pas un problème pour nous. Parce que la politique qui va être menée par la municipalité est en accord avec nos valeurs et ce qu'on veut pour Lyon. On veut une ville de gauche et on est content des mesures faites par Doucet pendant son premier mandat, donc on va persévérer dans cette voie.
Et comme la métropole peut basculer à droite, faute d'accord avec LFI, ajoute-t-il, la gauche doit vraiment conserver Lyon.
Christophe Vincent à Lyon, à Strasbourg, une situation atypique pour le deuxième tour, alors que dans de nombreuses villes, le PS a fusionné avec LFI. Dans la capitale alsacienne, la socialiste Catherine Trottmann, arrivée en tête dimanche, fait alliance avec le candidat Horizon Pierre Jakubowicz. Une réponse à la fusion entre la maire sortante écologiste Jeanne Barseguian et l'insoumis Florian Cobrine. Mais Olivier Faure conteste cette alliance. Pour le patron du PS, je cite, « Cet accord à Strasbourg place ceux qui l'ont conclu en dehors du Parti Socialiste ». Ils avaient matraqué des gilets jaunes réfugiés dans un restaurant Burger King près des Champs-Élysées. En décembre 2018, 9 CRS ont été condamnés aujourd'hui à des peines de 6 à 24 mois de prison avec sursis. 4 victimes s'étaient constituées parties civiles dans ce procès. 16 autres qui n'ont pas été identifiées ont également été recensées par les enquêteurs. Aucun des CRS condamnés n'était présent à l'audience cet après-midi. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
À l'audience, les prévenus avaient admis avoir manqué de lucidité au terme d'une journée d'affrontements particulièrement violents. Un contexte que le tribunal a pris en compte, mais qui n'exonère pas pour autant les 9 CRS de leurs responsabilités. Leur avocat avait dépêché un simple stagiaire et aucun d'eux ne s'est présenté tout à l'heure à l'audience, ce que regrette Arié Halimi, l'avocat de deux des victimes.
Ils ne sont pas venus écouter ce délibéré, on aurait voulu. On aurait vraiment préféré qu'ils viennent écouter ce que la justice avait à leur dire. Et je pense que ce jugement correspond peu ou prou au déroulement de la scène et aux responsabilités des uns et des autres.
Des peines avec sursis, sensiblement égales et pour certaines même supérieures aux réquisitions du parquet, mais pas d'interdiction d'exercer ni de porter une arme, ni d'inscription à leur casier judiciaire. Chacun d'eux reconnu entièrement responsable des préjudices des victimes, mais c'est au tribunal administratif qu'il appartiendra de les évaluer, précise Mohad Nefati, l'avocat de Nathan Arthaud. Le jeune homme avait reçu 27 coups assénés par 6 policiers.
Aujourd'hui, Nathan, il est un de ces visages de cette justice qui, certes, passe dans la douleur, mais qui, à un moment donné, se prononce et considère que les forces de l'ordre ne disposent pas d'un totem comme ça d'immunité qui pourrait leur permettre de pratiquer des violences parce qu'ils sont fatigués, parce que leur journée a été harassante, parce que le contexte était quasi insurrectionnel. En réalité, se délibérer, c'est celui de la responsabilité. Les policiers sont comme n'importe quel citoyen, ils sont responsables de leurs actes, quelles que soient les vicissitudes de la hiérarchie, et aujourd'hui ça a été rappelé clairement.
Les 9 CRS condamnés ont encore la possibilité de faire appel de ce jugement.
Un chiffre préoccupant ce soir dans l'actualité économique et sociale. Les expulsions locatives ont atteint l'an dernier un niveau record. 30 500 ménages ont été forcés de quitter leur logement après une décision de justice, chiffre en hausse de 27% par rapport à 2024. Marine Corbel, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Les associations pointent un bilan d'autant plus alarmant qu'il est partiel.
Oui, parce que ce chiffre, 30 500 ménages, correspond aux procès verbaux d'expulsion sur décision de justice. Il s'agit en fait des cas où les locataires ne partent pas d'eux-mêmes une fois la décision de justice rendue. Ce sont alors les forces de l'ordre qui interviennent pour les expulser. Mais si on compte aussi les ménages qui quittent leur foyer sans cette escorte, le tableau est encore encore plus sombre. Marie Retan est directrice de la plateforme Prévention Expulsion à la Fondation pour le logement des défavorisés.
Il n'y a pas de chiffres tangibles, mais on sait par la pratique, et tout le monde le dira, il y a deux, voire même trois fois plus de personnes qui quittent le logement dans les semaines ou dans les jours précédant l'expulsion. Donc on serait sur 130 000 personnes qui ont dû quitter de force leur logement. Et il faut savoir que chaque expulsion est un traumatisme. Un tiers des personnes perdent leur emploi. Il y a des conséquences psychologiques, de santé, de scolarisation des enfants, de perte de chance en termes d'études, en termes de formation. Et l'État doit le voir comme ça, doit le voir comme un traumatisme.
La situation s'explique en partie par des difficultés financières de plus en plus importantes. La Chambre nationale des commissaires de justice pointe par exemple les prix de l'énergie, la dégradation du pouvoir d'achat, l'explosion des charges de copropriété, plus 50% en 10 ans. Pour la Fondation pour le logement des défavorisés, il y a aussi des décisions politiques derrière ces chiffres. Par exemple, la loi Casbarian, ce texte dit anti-squat, est entré en vigueur en juillet 2023. En accélérant les procédures d'expulsion en pleine crise du logement, il a fragilisé les locataires, explique l'association. Elle dénonce enfin un non-respect de la loi de la part de l'État lui-même sur le relogement et le logement social. Aujourd'hui, 2,9 millions de personnes sont dans l'attente d'un logement social en France.
Marine Corbel, merci pour ces explications. La semaine dernière, il annonçait quitter Gallimard, son éditeur historique depuis 27 ans, pour rejoindre Grasset, filiale du groupe Hachette. Aujourd'hui, Boualem Sansal s'explique dans une tribune publiée dans le journal Le Monde. L'écrivain franco-algérien a été incarcéré pendant près d'un an en Algérie, avant d'être gracié par le président Tebboune. Et c'est justement la méthode privilégiée par Gallimard pour obtenir sa libération qui justifie son départ, Pierre Ropert.
Boualem Sansal veut avant tout rétablir les faits, corriger les rumeurs autour de son départ. Je n'ai été démarché par personne et je n'ai entrepris aucune démarche pour me placer auprès d'un quelconque éditeur, écrit-il. Selon lui, ce qui s'est joué ici, c'est une divergence avec son éditeur historique, Gallimard, durant sa détention en Algérie. Antoine Gallimard a privilégié pour le défendre une démarche diplomatique que je comprends et respecte, écrit Boualem Sansal, mais une démarche qui ne correspond pas, je cite, à la ligne de résistance que j'ai assumée face au régime violent et cruel d'Abdelmadjid Tebboune. Pour l'écrivain franco-algérien, il s'agit d'une position de principe, pas de soumission, pas de négociation, quitte à rester en prison, précise-t-il. Il juge donc sévèrement le résultat de cette séquence. Il est gracié et non pas acquitté. Cette situation est pour moi moralement et juridiquement inacceptable, écrit-il encore. Elle entérine l'injustice dont j'ai été victime. C'est donc cette logique qui a dicté son choix, rejoindre Grasset pour publier un livre de combat, assure-t-il. Mais le choix de cette maison d'édition, filiale du groupe Hachette, dans le giron du milliardaire réactionnaire Vincent Bolloré, pose question. À ce sujet, l'écrivain précise « Je ne le connais pas et ne l'ai jamais rencontré. Si l'on veut le critiquer, qu'on le fasse directement, sans passer par moi. » Boualem Sansal, enfin, assure vouloir ne participer à aucune polémique, avoir besoin de calme et de distance. Son prochain livre, pourtant, qui doit raconter l'épreuve qu'il a subie, sera scruté bien au-delà du monde littéraire.
Pierre Ropert, merci. C'est en Irlande que nous terminons ce journal ce soir. L'Irlande et les 70 millions d'Irlandais du monde entier qui fêtent aujourd'hui la Saint-Patrick, le saint patron du pays. Alors pour comprendre l'importance de l'événement pour la communauté irlandaise, direction Waterford, autrefois un humble village de pêcheurs considéré comme le berceau de la Saint-Patrick. C'est un reportage de Clémence Pénard.
C'est devant la statue de ce moine franciscain né à Waterford qu'on retrouve Johnny. Il est l'un des organisateurs du défilé dans cette ville portuaire et selon lui, sans Luke Wadding, il n'y aurait tout simplement pas de Saint-Patrick.
En 1632, le moine Luke Wadding est chargé d'officialiser les saints dans le calendrier liturgique. Mais là, il se rend compte que Saint-Patrick n'a en fait jamais été canonisé. En tant qu'Irlandais, impossible de laisser tomber son Saint-Patron, il inscrit alors le 17 mars dans le calendrier comme jour de la Saint-Patrick.
Un geste qui a permis, on le sait aujourd'hui, à cette fête de rayonner bien au-delà de l'Irlande. Donacha O'Killeran travaille au musée des trésors de Waterford.
Peu importe où vous êtes dans le monde, à la Saint-Patrick, tout le monde devient irlandais. On met un chapeau vert rigolo, on écoute de la musique irlandaise, on boit peut-être même de la bière verte, qui sait. Et tout ça, c'est grâce à nous, ici, à Waterford et à Luke Wadding. Bon, je ne pense pas qu'il avait vraiment tout ça en tête. Pour lui, c'était surtout une fête religieuse. Mais il était, qu'il le veuille ou non, un vrai expert en marketing. Finalement, il a rendu le monde entier irlandais une fois par an.
Waterford revendique ainsi haut et fort son rôle fondateur dans l'histoire de la Saint-Patrick et espère que sa parade et ses concerts attireront de nombreux visiteurs. 20 000 personnes sont attendues aujourd'hui dans les rues de la ville.
Voilà un peu de musique irlandaise pour conclure ce journal. Un mot du temps demain, le soleil dominera sur presque tout le pays. Mais le ciel restera nuageux dans le sud-est avec de la neige sur les Alpes. Les températures minimales iront de 1 à 10 degrés en général. L'après-midi, comptez entre 11 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Axel Dubois à la technique Alexandre Dang.